le magazine des Nations Unies.
Fusion des ex-rebelles du M23 en territoire congolais. La MONUSCO dit ne pas disposer pour l'instant d'informations ni d'indices à ce sujet. Une déclaration qui intervient après l'annonce du gouverneur du Nord Kivu sur la présence des éléments M23 en RDC. Et pendant ce temps, la mission onusienne appelle à l'implication de tous pour relocaliser les ex-rebelles sud-soudanais présents en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire due au conflit Louba Pygmé dans le Tanganyika préoccupe au plus haut point la MONUSCO. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des opérations s'y est rendu la semaine dernière. Objectif, se rendre compte des faits et chercher des solutions de concert avec les autorités locales. Enfin, 150 000 personnes déplacées internes et une crise humanitaire dans le Kasaï. C'est en tout cas la conséquence des affrontements ces derniers mois entre les forces de sécurité et une milice. Les humanitaires se mobilisent pour apporter assistance. Les détails avec le chargé de communication de Ocha. Et voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. La MONUSCO, nous le disions, ne confirme pas la présence jusque-là des éléments du M23 sur le sol congolais. La mission onusienne dit ne pas disposer d'informations ni d'indices pouvant confirmer une telle présence. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole de la MONUSCO mercredi dernier à Kinshasa. C'était la conférence hebdo des Nations Unies. Alors Jean-Pierre Lalikoko, vous êtes là pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour Tina, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Le porte-parole de la MONUSCO a été clair à ce sujet mercredi dernier. Pas d'informations ni d'indices pour attester justement la présence des éléments du M23. Et on écoute à ce sujet Prosper Philippe Sébassé.
Jusque-là, nous n'avons pas recueilli des informations ou des indices pouvant quand même confirmer la présence des éléments du M23 en République démocratique du Congo.
Toutefois, Tina, la MONUSCO veille au grain. La mission onusienne met tout en œuvre en collaboration bien entendu avec les FARDC auxquels elle a toujours apporté son appui pour assurer la protection des populations.
Du côté de la MONUSCO, nous avons non seulement déployé des troupes sur le terrain qui mènent des patrouilles à partir de tous les postes d'entrée en République démocratique du Congo, mais aussi en étroite collaboration avec nos collègues et partenaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont aussi sur le terrain. Nous avons aussi déployé des aéronefs.
Cette déclaration de la MONUSCO intervient après l'annonce faite par le gouvernement du Nord Kivu concernant justement l'incursion en RDC du seigneur des guerres Sultani Makenga et de ses éléments du M23 venus de l'Ouganda pour, a-t-il indiqué, mener une nouvelle guerre en RDC. Alors, un fait peut-être pour corroborer ces propos, deux personnes présumées éléments du M23 ont été présentées mercredi dernier à Goma et on écoute à ce sujet Julien Paloukou.
Il y a quelques jours, je me suis adressé à la presse pour dénoncer l'incursion des éléments du M23. Beaucoup de gens ont douté de cela, ça suscitait beaucoup de polémiques. Mais si nous nous retrouvons ici, c'est pour louer la bravoure des éléments des forces armées. Ils ont réussi à démanteler les réseaux au niveau interne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les réseaux se situent à deux niveaux. Il y a les niveaux externes et les niveaux internes.
Et dans la foulée, Tina, selon une dépêche de l'agence France Presse, datée du jeudi dernier, l'Ouganda a admis pour sa part avoir perdu la trace des 40 rebelles congolais. Des rebelles qui, selon Kampala, se sont échappés d'une base militaire ougandaise. Pourtant, quelques jours auparavant, les autorités ougandaises avaient nié que ces ex-rebelles du M23 s'étaient échappés de la base des Bihangas, tout près de la frontière congolaise, Tina.
Merci beaucoup Jean-Pierre Lali pour toutes ces informations. Autre chose, la situation sécuritaire dans le Tanganyika préoccupe la MONUSCO. David Gressley, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations, accompagné du directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est donc rendu du 18 au 20 janvier dernier à Kalemi et Moba pour justement se rendre compte de la situation sécuritaire créée par le conflit interethnique Louba-Pygmé. Et bien évidemment, gouvernement envisager des solutions. François-Xavier Mibé nous fait le point sur l'étape de Calémie.
Déjà à peine arrivé, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC a discuté sur la question du conflit intercommunautaire avec les vice-gouverneurs de province. Ces conflits opposent depuis juillet 2016 les Pygmées d'origine Twa et les Bantous d'origine Luba. Un conflit qui touche 5 sur les 6 territoires qu'elle compte le Tanganyika en faisant plusieurs victimes et provoquant le mouvement des milliers d'autres déplacés. Le représentant spécial adjoint David Grassley.
On va continuer de donner un appui pour les Baraza. C'est une approche appropriée pour trouver des solutions localement.
La visite du représentant spécial adjoint intervient au moment où les opérations d'inscription des électeurs sont en cours dans la province du Tanganyika, mais sur fond d'insécurité. David Grassley.
Et je crois après l'accord qui a été signé le 31 décembre à Kinshasa, c'est le moment d'aller à l'avant avec ce processus et d'assurer que tout le monde ait la possibilité de participer dans ces élections.
Les autorités provinciales du Tanganyika se disent déterminées à assurer la sécurité et maintenir la paix dans la région. La délégation du représentant spécial adjoint vient ce matin d'effectuer une visite de terrain à Manono, Calémie, François Diabimbe, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La situation humanitaire provoquée par les affrontements entre une milice et les forces de sécurité dans le Kasaï est préoccupante, selon une mission conjointe d'évaluation conduite par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA. C'était en décembre dernier. 150 000 personnes, parmi lesquelles des milliers de déplacés internes en sont affectés. Yvon Idoumou, chargé de communication et de plaidoyer à OCHA, évoque ici les besoins prioritaires ainsi que la réponse de la communauté humanitaire à cette crise. Il s'entretient avec Jean-Pierre Lalicoco.
Yvon Edoumont, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Et bonne année.
Ben, merci à toi aussi.
Oh, voilà, merci. Nous allons parler de la crise humanitaire dans les Kasaï. Certains humanitaires parlent ces derniers temps d'une crise humanitaire oubliée ou au radar en ce qui concerne justement les Kasaï. Qu'en pensez-vous?
Alors, la situation actuellement au Kasaï est une situation qui est assez préoccupante. Et c'est pour cela qu'en le mois dernier, nous avons fait une mission pour s'enquérir des conditions de vie de ces personnes qui ont été affectées par ces violences. On parle d'une situation qui remonte à août 2016 et qui ont eu plusieurs épisodes et qui ont entraîné plus de 150 000 personnes à être affectées par ces violences, y compris d'autres violences liées à la perte de biens, des personnes qui ont perdu la vie, des enfants qui sont enrôlés dans la milice. Donc voilà, nous à travers cette communication, nous avons voulu alerter l'opinion. Je ne pense pas qu'on peut vraiment parler d'une crise oubliée, vu que c'est la toute première depuis de longues années. Le Kasaï n'avait pas connu de telles violences depuis plusieurs décennies. Donc voilà, aujourd'hui, on veut s'assurer que les besoins de ces personnes affectées, on y apporte une réponse afin qu'elles puissent retrouver leur sérénité.
Oui, cette mission conjointe a constaté qu'il y a 150 000 personnes affectées par les conflits, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est beaucoup, il faut le dire. Hein. Quels sont les besoins pressants ou même prioritaires pour l'instant?
La RDC est un pays qui compte de nombreux habitants et ça veut dire que chaque fois qu'il y a une crise, une poussée de fièvre, les conséquences humaines peuvent être énormes, catastrophiques. En termes de besoins, ce sont toujours les besoins prioritaires pour ces personnes qui sont l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès aux médicaments, de pouvoir retrouver leur maison, en tout cas des abris, et puis éventuellement aussi, parce que ces communautés, ces familles qui ont été affectées sont des familles qui étaient entreprenantes, qui vivaient de leur activité commerciale, soit du... Il faut aussi effectivement leur permettre de recouvrer leurs moyens de subsistance pour qu'elles n'aient pas besoin de l'aide humanitaire pour pouvoir continuer leur vie de tous les jours.
On dit que cette crise est provoquée aussi un grand nombre de déplacés. Est-ce que à ce niveau-là, l'accompagnement humanitaire peut être vu sous cet angle pour aider les populations déplacées à regagner leur milieu d'origine?
Les personnes déplacées sont les premières personnes, parmi les premières en tout cas, à qui on essaie d'apporter de l'aide. Puisque quand on parle de personnes déplacées, ça veut dire que ces personnes ont quitté leur maison, ont quitté leur environnement. Aujourd'hui, elles se retrouvent certes et sûrement dans des familles d'accueil. les personnes déplacées sont parmi les premières personnes que nous visons à assister pour qu'elles puissent retrouver la sérénité de ce qu'elles vivaient avant ces violences. Donc ça veut dire leur apporter les besoins humanitaires vitaux nécessaires dans l'immédiat, comme je disais tantôt, eau, médicaments, nourriture, abri, les enfants aussi qu'ils puissent quelque part aussi retrouver le chemin de l'école. Donc voilà, aujourd'hui le plus important pour nous, c'est de s'assurer que toutes ces personnes qui ont besoin d'assistance la reçoivent.
Justement, la mission était une mission conjointe et plutôt d'évaluation. Et maintenant, la communauté humanitaire s'organise comment pour essayer d'apporter l'aide qu'il faut à ces personnes, et notamment aux personnes déplacées et aux sinistrés.
L'aide est en marche depuis plusieurs semaines.
Qu'est-ce qu'on a fait concrètement?
Concrètement, les activités qui ont été menées sous le leadership d'UNICEF à travers de l'approvisionnement de services et notamment aussi une distribution de fonds à certaines familles pour qu'elles puissent se prendre en charge. Cette aide a touché près de 15 000 personnes. 15 000 personnes, 650 000, ça fait à peu près 10%. C'est pas suffisant. C'est pour ça que le coordinateur humanitaire, le docteur Diallo, a fait cette communication pour effectivement demander plus de solidarité pour ces personnes. Le défi aujourd'hui, c'est que si peut-être aujourd'hui certaines personnes évoquent le terme de crise oubliée ou au radar, c'est parce qu'effectivement, depuis longtemps, le Kasaï est resté une zone paisible qui n'a jamais eu besoin de l'action humanitaire. Et aujourd'hui, du coup, quand une crise éclate, il faut savoir y répondre, tout en sachant que le gros de nos moyens sont souvent déployés dans les zones traditionnelles du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri. Donc aujourd'hui, les regards, l'attention de nos bailleurs et des acteurs humanitaires eux-mêmes, c'est une attention qui doit se tourner vers le Kasaï pour dire, écoutez, certes, on a des crises dans l'Est telles qu'on le connaît, mais il ne faut pas oublier les autres foyers tels que le Kasaï, ou même aussi pour faire pour peut-être sortir un peu du sujet, parler aussi du Tanganyika avec les conflits entre les Luba et les Twa. Voilà, ce sont des nouveaux foyers de tension, appel à ce qu'on soit vigilant et qu'on n'oublie pas ces personnes-là.
La mission conjointe a été dirigée par Ocha. À combien, en termes chiffrés, Ocha évalue-t-il les besoins?
Alors, en termes chiffrés, c'est toujours des montants qui sont assez élevés. Malheureusement, le travail de la mission continue et elle n'a pas encore établi de façon précise combien sont nécessaires, mais il est évident que sur 150 000 personnes, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Yvonne, la crise est là, il faut s'attaquer aux racines pour l'enrayer, essayer de l'enrayer. Que propose alors la coordination humanitaire à ce sujet?
Ben, nous, en tant qu'acteurs humanitaires, que ce soit au Tchad et tous ces autres, avec tous les autres partenaires, nous attaquons aux conséquences immédiates. Donc aujourd'hui, nous avons une population qui est affectée et nous faisons tout pour les assister. En termes de s'attaquer aux racines du problème, il faut voir avec les autorités congolaises. C'est une crise qui a des racines profondes et aujourd'hui, les solutions à long terme de ces foyers de tension, que ce soit dans le Katanga ou dans le Kasaï ou ailleurs, sont du ressort des autorités. C'est elles qui doivent trouver les réponses adéquates à des problèmes sous-jacents qui aujourd'hui se transforment en crise humanitaire.
Yvan Edoumou, je vous remercie.
Merci.
Nous à tout d'abord dans le Tanganyika et le Katanga pour parler des trois campagnes de vaccination de rougeole. Plus de 226 000 enfants ont été ciblés à deux reprises au Tanganyika, plus précisément dans les zones de santé de Nyuzu et Kongolo. Par ailleurs, dans la province voisine du Katanga, près de 82 000 enfants ont été vaccinés contre cette épidémie dans les territoires de Mufunga Saint-Poué et de Mitoaba. Ces trois campagnes de vaccination, financées par l'UNICEF, ont ciblé plus de 300 000 enfants de 6 mois à 14 ans. Tenu à Butembo du 11 au 12 janvier d'un forum d'échange intitulé « Dialogue démocratique entre acteurs étatiques et non étatiques » afin de renforcer la confiance entre les acteurs de protection de la population locale. Nous sommes là dans la zone de responsabilité du bureau de Beni. Ce forum a été organisé à l'initiative de la section des affaires civiles de la MONUSCO de Beni. Il a regroupé 76 personnes, parmi lesquelles les responsables administratifs et militaires de Butembo, les leaders coutumiers, la mairie, mais également la société civile. Thank you. Enfin, dans la province de la Tchopo, l'ONG Solidarité Internationale a apporté une assistance en articles ménagers essentiels, en eau, hygiène et assainissement à plus de 50 000 personnes déplacées, retournées et communautés d'accueil des régions d'Opiengé et de Balobé dans le cadre d'un programme de 10 mois mis en œuvre par cette ONG.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La relocalisation des ex-rebelles sud-soudanais présents sur les sols congolais est une question qui demande l'implication de tous. Propos du porte-parole de la MONUSCO et selon Prosper Bass, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, mais également l'envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs, Saïdjinit, ils ont entrepris des contacts depuis le 12 janvier avec les autorités congolaises à Goma, mais à Kinshasa aussi. Le porte-parole répond ici aux questions de Jean-Pierre Lali Coco.
Félix Prosper Bassé, bonjour.
Oui, bonjour.
L'envoyé spécial des Nations Unies dans le pays des Grands Lacs, Saïd Zinit, et puis les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies ont entrepris depuis le 12 janvier dernier une série de contacts avec les autorités congolaises tant provinciales que nationales. Est-ce qu'on peut savoir un peu la nature de ces contacts? De quoi il s'agit exactement?
Vous avez parfaitement raison d'indiquer que depuis le 12 janvier 2017, Monsieur Mamadou Sambou Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, mais aussi chef de la MONUSCO, en compagnie de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Monsieur Saïd Djinit, ont initié une série de contacts qui les a menés successivement à Goma, mais aussi à Kinshasa. Au cours de cette visite à Goma, les deux autorités ont eu à rencontrer les autorités provinciales du Nord Kivu, notamment le gouverneur, mais aussi ont eu droit à un briefing qui leur a été livré par les organisations humanitaires sur justement les conséquences humanitaires, mais aussi sur les aspects juridiques de la présence des Sud-Soudanais sur le sol congolais. Mais au-delà de ces contacts avec les autorités provinciales, ces deux autorités aussi se sont rendues au camp de Munigi, à la base de Munigi, la base de la MONUSCO, où sont cantonnés les combattants désarmés de Riek Machar, dont combattants sud-soudanais, qui sont pris en compte, traités et cantonnés par la MONUSCO, en attendant que la situation soit plus claire. Au cours de leur contact avec le gouverneur du Nord Kivu, certains points ont été mis sur la table, notamment l'insécurité que pourrait provoquer la présence des sud-soudanais dans la région du Nord Kivu, qui, comme vous le savez, est déjà très meurtrie par une série de violences qui est observée là-bas depuis quelques années. Oui, ces préoccupations du gouverneur ont été prises en compte, mais souvenez-vous aussi qu'avant même que le gouverneur l'exprime en ces termes, déjà, certaines organisations de la société civile, mais aussi les populations de Nyiragongo, avaient clairement exprimé leur désaccord par rapport à l'installation des Sud-Soudanais dans leur environnement naturel qui est Munigi. C'est dans le cadre, justement, de la recherche de solutions pérennes que ces deux autorités étaient parties non seulement prendre contact avec et les autorités provinciales, mais aussi les combattants sud-soudanais, mais aussi avec la MONUSCO et les Nations Unies de manière générale, en vue non seulement d'écouter, mais aussi de voir comment est-ce qu'ensemble, en coordination avec les autorités congolaises, les autorités provinciales du Nord Kivu, on pourrait trouver une solution.
Précisément, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a demandé expressément aux deux autorités que vous venez de citer, d'apporter leur soutien à la République démocratique du Congo afin que les rebelles sud-soudanais soient délocalisés. Quelle a été la réponse de deux autorités des Nations Unies? En d'autres termes, quelle réponse réservent les Nations Unies à cette requête?
Oui, d'abord, il faut préciser que le soutien des Nations Unies, spécifiquement concernant ce problème de la présence du Sud-Soudanais en RDC, n'a jamais failli. Ça veut dire que nous avons toujours été là dès les premiers moments, dès que ces Sud-Soudanais ont franchi la frontière de la RDC et se sont retrouvés dans le parc national de la Garamba en très piteux état, nous avions intervenu pour non seulement les désarmer, mais aussi leur accorder les premiers soins avant de procéder à leur extraction vers les sites de Dungu, de Bunia et de Munigi. Cet appui, ce soutien va se poursuivre, sera encore beaucoup plus dynamique. C'est en cela que ces deux autorités ont pris leur bâton de pèlerin et pour marquer l'intérêt, l'engagement et la détermination des Nations Unies et apporter une solution à ce problème. Mais aussi, il faut souligner une chose, c'est que ce problème est un problème problème global, est un problème qui nécessite l'implication et les efforts de tout le monde, de tous les partenaires, de tous les acteurs, y compris les autorités congolaises, les autorités du Sud-Soudan, l'autorité intergouvernementale, comme vous le savez, qu'on appelle l'IGAT, et toutes ces autorités, l'Union africaine, les pays de la sous-région, la CIGLR. Il faut l'implication de tous pour que ce problème puisse trouver une solution. Ce qu'il faut par contre noter, et qui est à mon sens très significatif, c'est la volonté exprimée par ces ex-combattants sud-soudanais de non seulement renoncer définitivement à faire la guerre, à prendre les armes contre un quelconque régime, ça c'est la première chose, et deuxièmement, ils ont aussi exprimé leur remerciement aux Nations Unies, particulièrement à la MONUSCO, pour tout le soutien qui leur a été apporté pendant qu'ils sont encore là-bas. Ils ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être relocalisés vers un des pays de la sous-région, avec leur famille, pour qu'ils puissent reprendre une autre vie qui est différente de celle qu'ils ont connue auparavant et qui les a amenés en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes déterminés, ensemble, à travailler. Et je dois dire que suite à cette visite au Nord Kivu, les deux autorités, M. Saïd Djenit et Maman Sambou Sédikou, sont venus à Kinshasa où ils ont eu d'autres contacts avec les autorités gouvernementales, notamment le Premier ministre M. Sami Badibanga, mais aussi d'autres autorités, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le chef de cabinet de M. le Président de la République, toutes ces autorités pour qu'ensemble on voit quels sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour trouver une solution définitive au problème du Sud-Soudanais.
Vous l'avez dit tout à l'heure, la solution à ces problèmes demande l'implication de tous. Est-ce qu'il y a des pays de la sous-région qui se sont manifestés pour éventuellement accueillir les rebelles sud-soudanais?
Vous savez, c'est justement à cela que ces deux autorités s'attellent. Ça veut dire qu'ils ont pris leur bâton de commandement, leur bâton de pèlerin, et comme nous l'avons toujours dit, il faut une approche holistique, il faut une implication de tous pour que la solution puisse être trouvée. C'est dans ce cadre d'ailleurs que ces deux autorités, après Kinshasa, vont se rendre dans les pays de la sous-région pour aller discuter, prendre contact avec les gens, mais ils iront aussi bien à Djouba, au Sud-Soudan, qu'en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, pour impliquer tout le monde afin que la solution puisse être trouvée rapidement. Les deux autorités savent très bien qu'il n'est pas question que les conséquences du conflit au Sud-Soudan puissent avoir des répercussions ou des impacts très négatifs sur les populations du Congo qui souffrent déjà depuis très longtemps de la présence d'autres groupes armés. Et c'est pour cela que nous pensons tout simplement qu'il faudra s'engager, qu'il faudra impliquer tout le monde, qu'il faudra aller auprès de tout le monde pour expliquer afin de trouver des pays tiers qui souhaiteraient recueillir ces gens-là.
Une dernière question, combien de rebelles sud-soudanais sont-ils maintenant dans les camps de Muningi?
Dans le camp de Muningi, nous avons cantonné 520 ex-combattants appartenant à la faction de Riek Machar de l'armée du Soudan. Donc nous avons 500 qui sont pris en charge par la MONUSCO au camp de Muningi.
Félix Prosper Bassé, merci.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à Radio Okapi et aux auditeurs.
Environ 25 000 nouveaux déplacés du Nord Kivu ont fui depuis décembre 2016 les exactions des rebelles des ADF pour s'installer au sud-ouest du territoire d'Irumu en Ituri. Ces statistiques ont été révélées mercredi dernier par les humanitaires à Bunia. Et selon le bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, ces personnes déplacées s'ajoutent à environ 90 000 autres venus, eux aussi du Nord Kivu en 2014. Leurs conditions de vie sont difficiles et la société civile pour une assistance. Isaac Rimoyope.
Ces nouveaux déplacés sont installés dans les localités de Ndimo, Apende, Ndalia et Ofai sur l'axe routier Luna Komanda. Cela porte à plus de 110 000 le nombre de déplacés en provenance du Nord Kivu installés en Ituri depuis 2014. Selon la société civile du territoire d'Irumu, ces déplacés, dont la plupart sont hébergés dans des familles d'accueil, vivent dans la misère. Son président, Giri Gotabo, précise que certains parmi eux font des travaux journaliers dans des champs des autochtones et reçoivent en contrepartie un peu de vivres pour leur survie. D'autres sont obligés de quémander. Certaines filles de ces déplacés se livrent même à la prostitution. Les chargés des affaires humanitaires à Ocha Bunia signalent qu'un fonds de 14 millions de dollars est déjà disponible pour l'assistance des déplacés les plus vulnérables sur l'axe Grand Nord Sidirumu, province du Nord Kivu et Ituri. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Nous restons dans la crise humanitaire avec la question de notre consoeur Laetitia Massella de la RTNC2 Développement et la réponse d'Yvon Idoumou, chargé de communication à Otcha. C'était mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies.
Yvon, selon votre relevé humanitaire, comment se présente la cartographie de zones désinistrées qui exigent une intervention efficace pour venir au secours des populations?
D'accord. Bon, c'est une question assez vaste. Je suppose qu'on parle de toute la RDC. La situation humanitaire en ce moment est marquée par plusieurs poches de crise, qu'on peut dire. On peut plus parler des inondations à Boma, dans le Congo central. On a aussi toute cette vague d'insécurité dans le Tanganyika avec les conflits communautaires entre les Luba et les Twa. Dans l'Ituri, on a aujourd'hui, avec la présence des réfugiés sud-soudanais, c'est aussi un théâtre d'opération pour nous. Évidemment, sans compter le Nord Kivu, Sud Kivu, donc voilà. Donc, c'est une situation qui n'est pas très radieuse, mais comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, nous sommes sur les acteurs humanitaires dans les Nations Unies que ONG sont sur le terrain et essaient de faire de leur mieux pour soulager les personnes qui sont dans le besoin.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Capi. Je suis Lungamba Masanfu Willem, marié et père de plusieurs enfants. J'ai fait mon école primaire à Saint-Pierre et je suis allé au collège Kobuto, puis mon cycle d'orientation aussi au collège Kobuto. Et puis après je suis allé à l'Institut National des Arts, j'ai fait les arts dramatiques ici à Kinshasa. Donc je suis artiste comédien de formation à l'Institut National des Arts. Et puis après, je suis allé aussi faire les relations internationales à l'Université de Kinshasa. À la MONUSCO, je suis entré en décembre 2002 et je suis technicien studio. Le matin, lorsque j'arrive au boulot, je commence tout d'abord à lire mes messages, donc mes mails. Je vois l'état du studio, voilà, puisque là je suis chef d'équipe. Je parcours tous les rapports des techniciens et puis après, s'il y a des solutions à apporter, on les fait. De par mon service, j'aide aussi les journalistes à des problèmes techniques. Mon parcours professionnel avant l'agence, bon, comme je vous ai dit, je suis comédien de formation, j'ai fait partie d'un groupe de théâtre et puis après, je me suis lancé dans le studio. J'ai commencé tout d'abord dans le studio d'enregistrement de musique, là où passaient tous les orchestres de Kinshasa. Voilà. Et puis après, je suis allé à Radio Elikia, la première radio catholique de Kinshasa. Quand j'étais au studio d'enregistrement de musique, des orchestres, voilà, même les chorales, c'est de 88 à 95. Et puis après, je suis allé à Radio Elikia de 95 à 2003. Et puis je suis venu ici à la MONUSCO, à Radio Okapi, de 2002, donc de décembre 2002, jusqu'à nos jours. Voilà. Donc là où j'ai commencé, jusqu'à aujourd'hui, quand je suis à Radio Okapi, voilà. Mes préférés, donc j'aime tout ce qui est légumes, j'aime. Du riz, sans oublier le poisson salé, voilà. Et la musique m'apporte beaucoup. Yebi sanga mwana mafifio, nalembi koyoka bilobela na bato, gana lembi yeye,
Nakozokana motema awayukiye banza mikolo poso yo tovandi na yo yuyu yakozongisela ngamotema oyanga mabanzo mama na yembi na nzembo soko boy koyoka nakokatwa nanga libela mawaba ebisio aye.
C'est en mémoire de Papa Wemi. Le titre c'est Mère supérieure. Dans mes heures perdues, je fais la musique, je chante, voilà. La musique profonde congolaise et puis l'international aussi. L'international aussi. Puisque j'ai grandi dans ça, quand j'étais petit, j'étais dans la chorale et puis je suis allé à l'Institut National des Arts. Et voilà quoi. C'est dans les sons, c'est dans les sons. Et mes projets d'avenir... je rêve créer une agence culturelle, là où on peut trouver tout, la communication, l'art dans son ensemble, même le journalisme, puisque j'ai œuvré beaucoup dans les médias, donc je rêve créer une agence culturelle. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés à ce moment. Tous les auditeurs et auditrices de Radio Capis, je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous à noter dans votre calepin. Le 25 janvier, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme présente son bilan 2016 de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On vous dit merci d'avoir suivi cette édition qui a été coordonnée par Jean-Pierre Elalé Coco avec le concours de François-Xavier Mibé, Isaac Rémoyopé au reportage, Willem Lungemba était à la prise de son, moi c'est Tina Salama, le plaisir était le mien en tout cas comme d'habitude. Alors vous voulez réécouter ce numéro, c'est simple, vous n'avez qu'à taper le www.radiocapi.net, c'est en tout cas le site de Radio Capi. Alors on se dit rendez-vous un dimanche prochain pour une nouvelle édition de Mag UN. Excellente suite des programmes sur Radio Capi.